Vous écoutez InfoRC, tout de suite un magazine avec des jeunes du lycée Gimond d'Aubenas.
Actu Terme. Actu Terme. Bienvenue dans l'émission Actu Terme, une émission des terminales en spécialité sciences économiques et sociales du lycée Marcel Gimond à Aubenas. L'objectif est de les préparer au grand oral. Chaque semaine, un élève doit présenter un sujet d'actualité dans le domaine économique, social ou politique. La présentation se fait devant la classe, sans notes, en minimum 3 minutes. Le but est double. D'une part, améliorer ses performances oratoires, sa diction, sa posture.
Actu terme. Nicolas Sarkozy est de retour au tribunal. Condamné définitivement il y a quelques semaines pour l'affaire Ligue-Malion, Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, va être jugé lors du procès qui a commencé le 6 janvier 2025 et qui finira le 10 avril, avec 12 autres personnes pour 4 délits. Association de malfaiteurs, corruption, recel de détournement de fonds publics étrangers et financement illégal de campagne électorale. On peut donc se demander légitimement quel est le système qui a permis qu'un homme accède au président de la République illégalement. Donc premièrement, nous verrons le système de financement de campagne, comment ça marche et quelles sont ses limites légales. Puis nous verrons un cas de transgression de ses limites, le cas Sarkozy. Puis nous verrons les limites de ce fonctionnement en lui-même et des solutions pour l'améliorer. Donc le financement électoral, comment ça marche? Les partis politiques, pour financer leur campagne, donc pour organiser des meetings ou des primaires, et ou pour financer ou pour rémunérer leurs membres permanents par exemple, ils ont besoin de financement. Alors il y a les financements privés et les financements publics. Les financements privés, qui représentent environ 100 millions d'euros par an, tout parti confondu, sont divisés en trois parties. Premièrement, nous avons les dons de personnes physiques. Chaque personne physique peut donner à un parti politique jusqu'à 7500 euros par an. D'après l'article 52-8 du code électoral, seulement les personnes physiques sont autorisées à faire des dons, les personnes morales sont interdites. Par exemple, les personnes morales, c'est par exemple les entreprises. Ensuite, il y a les cotisations annuelles. C'est chaque personne qui adhère à un parti politique, lui doit une cotisation tous les ans. Puis les pourcentages de rémunération, le fait que chaque élu doit chaque année reverser un pourcentage de sa rémunération d'élu à son parti politique. Ce pourcentage dépend des partis. Les dépenses électorales, donc les dépenses faites par les campagnes, sont limitées par la loi à 22,5 millions d'euros. Retenez ce chiffre, il est important par la suite. Donc 22,5 millions d'euros, c'est le coût après lequel les partis politiques ne sont plus remboursés pour les campagnes électorales. Ce plafonnement, il est défini dans la loi du 11 mars 1988. C'est elle qui définit les financements privés et publics et qui fixe les plafonnements donc des dons publics et des dons privés. Mais c'est qui contrôle tout ça? Eh bien, c'est la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Elle reçoit, examine et publie les comptes de campagne des candidats et candidates. Elle examine précisément d'où viennent les financements et le respect des plafonnements. Son rôle a été établi dans l'article 92-1342 de la loi du 23 décembre 1992. Et donc elle contrôle s'il n'y a pas déplacement des plafonnements ou des dons illégaux. Mais donc s'il y a transgression de ces limites, il y a sanction. Donc il y a trois types de sanctions pour ce type de transgression. Tout d'abord, le rejet des financements de campagne. Si la CNCCFP, donc la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, s'aperçoit qu'il y a des irrégularités, elle peut rejeter le compte de campagne et interdire un financement, un remboursement. Ensuite, ça peut aller jusqu'aux amendes. Si il y a par exemple déplacement du plafond ou alors des dons non déclarés, il peut y avoir des amendes. Et ça peut aller jusqu'au pénal ou s'il y a violation grave, par exemple des dons non déclarés ou des dons illégaux. Alors, il peut y avoir des sanctions donc d'amende ou de peine de prison. C'est ces violations graves qui vont nous intéresser pour les deux histoires dont je vais vous parler ensuite. Les histoires Sarkozy. Donc la première, c'est l'affaire Ligue-Malion. L'affaire Ligue-Malion est la dernière qui se passe en acte, mais la première à avoir été jugée. L'affaire éclate en 2014, le 14 février 2014, lorsque le magazine Le Point révèle le scandale. Une agence de communication aurait surfacturé l'UMP, donc le parti politique de centre-droite dont Sarkozy faisait partie, pendant la campagne de 2012. Donc, d'après Le Point, c'est un surcroît de 20% et des coûts qui auraient avoisiné le double de ceux habituels. Donc remontons en 2012, c'était la campagne électorale. C'est l'agence de communication Ligue-Malion qui s'occupe des meetings de Nicolas Sarkozy. La campagne électorale bat son plein entre janvier et mai 2012. Nicolas Sarkozy fait un total de 44 meetings, c'est-à-dire 8 par mois, pendant que, par exemple, en comparaison, François Hollande n'en fait que 10 en tout. Et ce n'est pas des petits meetings, car les coûts sont exorbitants. On parle de 200 000 euros pour un rassemblement à Annecy ou de 1,8 million d'euros pour un meeting à Villepinte. Enfin, le seuil est vite dépassé. Libération révèle un surcroît de 18,5 millions d'euros, alors qu'on rappelle que le taux de dépenses légales est 22,5 millions d'euros, c'est donc presque le double qui a été dépensé. C'est un surcroît qu'il faut cacher. Ainsi, l'UMP va payer pas à l'association des financements de campagne, mais à Big Magnon sous un système de fausses factures pour des prestations bidons. Quand l'affaire est révélée, tous les acteurs nient, principalement Nicolas Sarkozy. Jusqu'en mai 2014, où l'ancien président adjoint de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy avoue qu'en effet, il y a bien des frais qui ont été imputés à l'UMP. Et en novembre 2014, c'est le patron de Big Malian lui-même qui avoue qu'il y a bien eu un système de fausses factures à la demande de l'UMP. En septembre 2021, il y a donc le procès de Sarkozy qui a été condamné à un an ferme, qui est la peine maximale selon les circonstances. Il a fait appel et en novembre 2024, il y a quelques mois, il a été condamné à un an, dont 6 mois avec sursis. Maintenant, j'aimerais vous parler de l'affaire Kadhafi. L'affaire Kadhafi pour laquelle il est aujourd'hui au tribunal. Il est accusé d'un pacte de corruption avec une dictature étrangère, la dictature libyenne de Kadhafi. Alors déjà, qui est Kadhafi ? Kadhafi, c'est l'homme qui a été à la tête de la Libye des années 60 jusqu'en 2011. Il a été commanditaire pendant de longues années d'un état terroriste et d'actes terroristes donc partout dans le monde, y compris contre la France. Il est donc peu apprécié de la scène internationale, dont de la scène occidentale, aussi de la France. En 2005, Nicolas Sarkozy, qui était alors ministre de l'Intérieur, le reçoit publiquement. D'après les juges, c'est ici que commence le pacte, le 6 octobre 2005. D'après l'accusation, l'intérêt pour Sarkozy est de financer sa campagne électorale de 2007, alors que pour Kadhafi, l'intérêt est de sortir de l'image du terroriste, du dictateur, et quoi de mieux que de s'afficher avec la France, le pays des droits de l'homme. Les temps passent, et on arrive en 2011. Nicolas Sarkozy est alors président de la République. En 2011, il y a les printemps arabes. C'est le fait que, donc en 2011, il y a de nombreuses populations arabes qui sont soulevées contre les dictateurs. Ça a commencé avec la Tunisie, puis avec l'Égypte, puis en février avec la Libye. Lorsque les populations se révoltent, Nicolas Sarkozy va les soutenir et inviter à renverser le régime de Kadhafi et va lui déclarer la guerre. Ce qui est très inattendu, étant donné qu'il s'était rapproché de lui et qu'il s'était peu prononcé pendant les printemps arabes en Tunisie et en Égypte. Kadhafi va mourir assassiné en octobre 2011, dans des circonstances qu'on ne connaît toujours pas aujourd'hui. L'affaire va être révélée dans la presse en 2012, puis prise par la justice en 2013. Il y a eu 10 ans d'instruction, une enquête gigantesque, dans 17 pays différents. C'est une affaire un peu totale, c'est comme si c'était une somme de toutes les affaires Sarkozy, tant elles concernent la diplomatie, l'économie, la justice, l'éthique... Donc ensuite, ces affaires, elles nous poussent à réfléchir sur le système de financement. Est-ce qu'il est juste ? Est-ce qu'il ne peut pas être amélioré ? Donc le système de financement, il possède plusieurs limites. Déjà, le financement public indirect, c'est le fait que les ménages qui font des dons reçoivent un remboursement d'impôts à hauteur de 66% des dons qu'ils ont faits. Par exemple, si une personne fait un don de 7 500 euros à un parti, elle aurait une réduction d'impôt de 4 950 euros. Seulement, seules les personnes avec beaucoup de revenus peuvent faire ces dons-là, d'autant plus que seules les personnes avec un impôt sur le revenu recevront ces remboursements. Ainsi, seules les personnes riches vont faire des dons et vont donc faire des dons à des partis qui vont les avantager économiquement parlant, et ces partis-là, pour garder des bonnes relations avec leurs donateurs, vont faire une politique qui va avantager donc les ménages les plus élevés. Ce système, il accentue donc les inégalités. Ensuite, le financement public direct, c'est le fait que chaque parti politique reçoit en fonction du nombre de parlementaires qu'ils sont affiliés. Par exemple, entre 2017 et 2022, les Républicains, avec 103 députés et 139 sénateurs, recevaient 9 millions d'euros par an. Seulement, cela constitue une limite, puisque ça n'invite pas à l'émergence de nouveaux partis politiques qui ne peuvent compter que sur des financements privés. De plus, ce système-là de rémunération, d'autant plus des dons privés des personnes riches, accentue l'idée que dans l'opinion publique, il y a une impression du fait que ce n'est pas la qualité des idées qui fait élire un parti, mais la hauteur des dons, ce qui peut créer un vent de méfiance de la politique et une légitimité des instances démocratiques. Voilà, donc on peut imaginer des réformes possibles pour améliorer ce système. Tout d'abord, on peut imaginer, pour éviter les transgressions comme ça a été le cas avec Sarkozy, une publication des comptes de campagne directe, claire et détaillée, c'est-à-dire qu'on pourrait voir les dons, les prêts et les financements publics. Il faudrait qu'elle soit rapide et qu'elle se fasse pendant la campagne et pas après, qu'elle se fasse à intervalles réguliers par exemple, afin que tout le monde puisse la voir et que ainsi personne ne peut être élu illégalement et qu'on ne se rende pas compte après la fin d'un mandat. De plus, on pourrait imaginer une aide pour les partis émergents qui ne peuvent pas bénéficier donc des financements publics. On pourrait aussi imaginer un changement de législation qui pourrait, par exemple, augmenter les peines pour les transgressions et financements illégaux de campagne. En effet, en France, la peine maximale, c'est 3 ans de prison ferme. Beaucoup donc considèrent que c'est insignifiant comparé à la transgression d'une loi démocratique. Pour conclure, en France, le financement de campagne est déjà réglementé et c'est un pilier pour la compétitivité électorale. Cependant, avec un ancien président et 3 anciens ministres, dont 2 de l'intérieur sur le banc des accusés, on peut remettre ce système en question et se demander s'il faut qu'il change pour être plus juste. Reste à voir l'issue du procès, si des législations changent ou pas.
ActuTerme. Vous venez de suivre une préparation à l'épreuve orale du bac. Très prochainement, on retrouvera d'autres élèves sur l'antenne d'InfoRC.